Radio Kapi. Oh, Kapi. Belinda Bosuma pour le journal.
Dix-huit personnes ont péri dans une incursion des hommes armés vendredi à Kissia dans le Kwilu. Parmi elles, le chef de ce groupement. On compte aussi plusieurs blessés graves. Ceci intervient après environ 3 mois d'accalmie à Bagata. Enrôlement des électeurs à l'Équateur. Plus de 2 semaines après la clôture officielle, des voix s'élèvent à nouveau pour réclamer l'enrôlement des nombreux peuples autochtones pygmées. Ces derniers se disent victimes de discrimination pendant ces opérations, mais pour la CENI Équateur, tout est clôturé. Madame, messieurs, bonjour. Commençons par la province du Kwilu. Regain des violences dans le territoire de Bagata. Au moins 10 des morts signalées après incursion vendredi des hommes armés dans le groupement Kissia. Il s'agit du chef du groupement et 17 autres personnes tuées par ces assaillants. Dans un rapport local de sécurité, la population de cette partie du pays plaide auprès des autorités compétentes pour renforcer les dispositifs sécuritaires afin de restaurer la paix. Le point avec Irène Mboma.
Cet incident sécuritaire intervient après près de 3 mois d'accalmie dans ce territoire. D'après un rapport local de sécurité dont une copie est parvenue à Radio Okapi ce dimanche 26 mars 2023, c'est le vendredi dernier que le groupement qui s'y est situé dans le secteur de Wamba a été attaqué par des bandits armés venus de la province du Maïndombe, précisément au village Ngweme. Après cette attaque, le bilan provisoire fait état d'au moins 18 personnes dont le chef du groupement tué par ses assaillants, peut-on lire dans ces rapports qui précisent que 17 autres personnes ont été tuées dans des campements. Outre ces morts, plusieurs blessés graves sont aussi signalés. La même source rapporte que pour l'instant, la population de Kissia qui était retournée au village s'est de nouveau déplacée, notamment vers Fatundu, chef-lieu du secteur de Wamba. Face à ces regains de violence, la population locale plaide pour l'installation des éléments de FRDC dans la région pour maintenir la paix. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Marc Karnasoro, condamne les attaques de représailles enregistrées ces derniers jours dans le territoire de Djougou. Attaques qui ciblent des civils et détruisent des maisons d'habitation. Il a dit samedi dans une interview exclusive à Radio Kapi, pour le numéro 1 de la mission onusienne en Ituri, certains combattants armés se préparaient pour attaquer la population dans les régions de Drodro, Lobi et Largou et celles de Bambou, Axe-Mongualou. Karnasoro attire l'attention des groupes armés actifs dans Djougou, que la MONUSCO travaillera avec les autorités congolaises pour que tous ceux qui commettent des crimes soient poursuivis. Le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Marc Karnasoro, est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous sommes dans un cycle d'attaques représailles de part et d'autre. Je rappelle encore que, d'abord d'une part de la part du groupe Codeco, des attaques sur des sites. Au moment même où je vous parle du regroupement d'un certain nombre de combattants au niveau de Massumbuko, Blukwa, Hacha, autour de Drodro, nous entendons aussi qu'il y a des attaques qui sont envisagées sur Lobi, Djissa, Largou, dans les heures à venir. De l'autre côté, nous avons d'autres groupes comme Zahir qui, de leur côté donc, du côté de Kilo, du côté de Mongualou, se livrent donc à des attaques sur les populations civiles, à des attaques sur les sites miniers où ils prennent en otage les civils, où ils se livrent donc à des actes qui sont, qu'on peut qualifier de crimes ici. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble des groupes armés, Codeco, Zahir, quel que soit le nom qu'ils se donnent, que la MONUSCO travaillera aux côtés du gouvernement national, aux côtés du gouvernement provincial, aux côtés des institutions judiciaires pour que tous ceux qui sont en train de commettre ces crimes-là en répondre devant les juridictions compétentes.
Notez qu'en Ituri, 17 personnes qui ont été prises en otage à Bambou dans le territoire de Djougou le vendredi dernier par des hommes armés identifiés par la population comme des présumés éléments de la Codeco ont été exécutées le samedi à Petit par leurs ravisseurs. Selon plusieurs sources concordantes dans la région, ces victimes étaient des passagers en partance vers Mongualou. Entre-temps, dans le territoire de Beni au nord Kivu, l'armée appelle la population à doubler de vigilance dans la région où se déroulent les opérations contre les EDF, surtout quand elle s'y rend au champ. Ceci après des incidents enregistrés la semaine dernière quand des EDF chassés par l'armée s'en sont pris à la population qui était en pleine activité champêtre. Le porte-parole des opérations conjointes des forces congolaises et ougandaises encourage également les jeunes qui se sont enrôlés dans ce mouvement à s'y rendre. Le lieutenant-colonel Mac Azukai est au micro de Marc Marofimbo.
Nous savons que la population de Béni et ses environs vit de l'agriculture. Mais ce que nous pouvons aujourd'hui conseiller à nos compatriotes, c'est de ne pas aller trop loin de nos positions. C'est vrai qu'il y a des parties que nous contrôlons efficacement, mais l'ennemi est imprévisible. Et aussi, un message que je voudrais lancer, c'est que l'objectif des opérations, ce n'est pas de tuer. Donc aujourd'hui, s'il y a des ADF, parce que nous savons qu'ils nous écoutent, nous savons qu'il y en a aussi qui sont dans cette forêt, malgré eux, ils ont été kidnappés, ils ont été enlevés, ils ont été trompés et qui se rendent. D'ici là, nous allons lancer une campagne de sensibilisation à la reddition. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Nous sommes des armées professionnelles. Nous avons souscrit à toutes les résolutions relatives aux droits de l'homme, aux droits de la guerre. Donc, quand quelqu'un se rend avec son arme ou sans arme, nous allons le recueillir, nous allons puis le traiter correctement tel que stipule le droit de la guerre, le droit de l'homme.
Enrôlement des électeurs à l'Équateur, province qui fait partie de la première ère opérationnelle. Plus de deux semaines après la clôture officielle, des voix s'élèvent à nouveau pour réclamer l'enrôlement des nombreux peuples autochtones pygmées. Ces derniers affirment avoir été l'objet de discrimination pendant les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Mais pour la CENI Équateur, tout s'est clôturé. C'est plutôt le ramassage des matériels qui est en cours. Paul-Richard Malengela nous fait le point.
En Bandaka, le président de la notabilité de la ville plaide encore pour l'enrôlement de plusieurs de ses concitoyens. Constant Mogwema cite particulièrement les nombreux peuples autochtones habitant le chef-lieu de l'Équateur, mais aussi dans le territoire de Bikoro et d'Inguindé.
Plus précisément, les peuples autochtones sont venus se plaindre à notre siège, parce que jusqu'à là, ils ne sont pas enrôlés. Alors, les peuples autochtones sont nombreux sur la route de Bikoro. Ils attendent là-bas. Alors, c'est pour ça que nous demandons aux autorités de la CENI de voir un peu cette situation ici dans la ville de Mbandaka jusqu'au niveau de Bikoro et au niveau d'Ingende.
Certes, le vote est un droit civique reconnu à tout Congolais, mais le secrétaire exécutif provincial de la CENI Équateur a simplement regretté pour ces peuples autochtones pygmées, y compris tous les retardataires qui n'ont pas respecté le délai jusqu'à la fin de la prolongation de l'enrôlement, car tout s'est clôturé définitivement le 4 mars dernier à l'Équateur, a précisé Achille Bolekila. L'heure est plutôt au ramassage de matériel, dont une partie est déjà entreposée à la CENI. Enfin, le CEP Achille Bolekela a rassuré que les données des centres d'inscription les plus éloignés continuent encore à venir. L'Équateur va franchir la barre de 100% des prévisions, a-t-il estimé. Mbandaka, Porcha Malengela, Radio Okapi.
Par ailleurs, encourager les ambitieux candidats issus des peuples autochtones pygmées et les personnes vivant avec handicap à être compétitifs aux prochaines échéances électorales, c'est l'objectif de la formation en faveur de ces deux catégories de personnes, formation tenue la semaine dernière à Goma. C'est une initiative de l'ONG Foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées et indigènes et défavorisés. Cette formation avait comme objectif accroître les capacités des participants sur les critères de choix du parti politique en prévision lutte de l'adhésion, mais aussi sur les stratégies de la campagne électorale. Des détails avec Denise Lukeso.
16 ambitieux candidats autochtones pygmées et des personnes vivant avec handicap, dont 4 femmes du Nord et Sud Kivu, ont bénéficié de cette formation. L'initiative est partie du constat que lors des élections de 2011 et 2018, les candidats autochtones pygmées et personnes vivant avec handicap n'avaient pas bien préparé leur campagne, d'où leur échec à ces échéances électorales passées. Ils veulent rectifier les tirs, d'où cette formation avait comme objectif de leur permettre de bien préparer les messages de la campagne, leurs projets de société, mais également de bien faire les choix des partis politiques. Vicar Hangi Batundi, coordonnateur du FDAPID.
C'est pour promouvoir l'inclusion, promouvoir les principes des Nations Unies selon lesquels ne laisser personne derrière. Donc, en tant que citoyen, les peuples autochtones pygmées, les personnes vivant avec handicap ont droit de participer au vote, pas seulement comme électeurs, mais aussi comme candidat. De ce mécanisme, on aura aussi la possibilité de se rassurer que à chaque étape, il y a au moins autant de candidats ambitieux formés qui sont en train d'évoluer, d'avancer jusqu'à ce que l'on pourra arriver à la proclamation.
Cette formation, c'est dans le cadre du projet Uchaguzi kwa wote ou Élection pour tous. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
programme de développement local de 145 territoires. La province du Congo central attend de ce programme 174 ouvrages dont les écoles primaires, les centres de santé et les bâtiments administratifs, cela sous gestion de la cellule d'exécution des financements des États fragiles. Le gouverneur Guy Bandundungidi du Congo central appelle la population locale à s'approprier ce programme gouvernemental. Il a dit samedi lors de la cérémonie de lancement officiel des travaux à Kasangulu. Paul Matendo Mayamba, notre envoyé spécial, revient de Mbanzangungu. Reportage.
Pour les territoires de Mbanzangungu, le PDL 145T prévoit 22 ouvrages parmi lesquels les écoles primaires pour renforcer la réforme de la gratuité de l'enseignement des bases, indique la CFF. Gu Bandou, qui gère cette entité, explique que ce programme répond aux idérata de la population.
Que la population de Kasangulu s'approprie ce projet qui vient répondre aux désidérata longtemps soulevés par elle.
Bonaventure Moutonge, constructeur de ces ouvrages, soulève les contraintes auxquelles il fait face.
Ici, les contraintes, c'est que les approvisionnements sont difficiles parce que les travaux sont tellement énormes et les carrés qui sont ici ont les difficultés pour approvisionner les différents chantiers.
Pour la population bénéficiaire, ce programme avec les centres de santé va soulager la misère des habitants de Kasangulu. Merci de penser aux centres de santé, qu'on puisse les équiper convenablement afin de mieux prendre en charge les patients et les soulager, demande cette habitante de Kasangulu.
Au Kasaï oriental, les pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur Mbujimayi continuent de détruire le tissu écologique de la ville. Plusieurs têtes d'érosion se sont créées au risque de couper quelques quartiers. Certaines femmes ménagères demandent au gouvernement provincial de s'investir dans la lutte anti-érosive. Reportage de Esther Ndalafina.
Au niveau du ravin Tchalamwana, au quartier Mikela, dans la commune de Dibindi, les têtes du ravin ont englouti quelques maisons résidentielles au cours des dernières pluies qui se sont abattues depuis bientôt 2 semaines. Certains propriétaires des parcelles menacées par les érosions passent la nuit à la Belle Étoile dans les parcelles voisines. Madame Kabedi sollicite l'implication du gouvernement.
Les ravins se sont créés, les maisons se sont écroulées, les parcelles englouties, les gens ont quitté les lieux. Nous n'avons pas la possibilité de construire ailleurs.
La situation est similaire au quartier du Pumba dans la commune de la Kanchi ainsi qu'au quartier Nkonga dans la commune de la Mouya. Madame Kabanga lance un cri d'alarme.
Le quartier du Pumba est coupé par les ravins. Sur la route des 20, de Kangoudia jusqu'au cimetière, aucun véhicule ne peut plus passer par là.
Le week-end dernier, le maire adjoint était descendu sur certains points de la ville pour sensibiliser la population aux travaux d'assainissement ainsi que des luttes anti-érosives. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, à chaque tombée des pluies diluviennes, c'est à des scènes d'inondations qu'assistent les habitants de plusieurs quartiers de la capitale congolaise. Les eaux des pluies s'effrayant elles-mêmes les chemins à défaut des bonnes voies, des canalisations, envahissent les artères et finissent pour la plupart des cas leur course dans des habitations. Pourtant, il existe des caniveaux qui sont censés conduire les eaux des pluies vers des grands réservoirs afin d'éviter aux habitants ces spectacles désolants qui par moments causent des pertes en vies humaines. Alors comment expliquer qu'il existe des caniveaux dans la ville de Kinshasa, mais l'eau déborde toujours? Dans une série de reportages, notre reporter Jacques-Yves Molima s'est penché sur cette question. Dans ce premier numéro, il nous fait le constat des voies de canalisation sur certaines artères. Où conduisent-elles?
Deux caniveaux encadrent l'avenue Kasavubu à partir de son croisement avec l'avenue Dima, l'artère principale du marché Zigida. Ces deux voies de canalisation amènent les eaux vers la ville, c'est-à-dire en descendant vers l'avenue Kabinda. Ils font jonction avec d'autres caniveaux encadrant Kabinda en amont comme en aval. Même s'ils sont totalement nettoyés, nous n'avons vu nulle part où ces caniveaux conduisent les eaux vers un grand réservoir. Conséquence, l'eau déborde et inonde toute cette artère. Sur l'avenue Kabinda, dans son tronçon compris entre l'avenue Luambo Makiadi ex Bokassa jusqu'à l'avenue Aérodrome qui va vers Ista, nous avons deux caniveaux. Mais l'eau déborde toujours et forme une longue rivière sur l'artère. Mais pourquoi? De Bokassa à Kassai, en plus d'être bouché par des ordures, la pente du caniveau est faible. Même chose entre Kassai et Aérodrome. Pourtant, il existe un grand collecteur vers l'église des Tokoïstes qui doit acheminer l'eau vers la rivière Bichakuchaku jusqu'au fleuve. Mais l'eau n'y arrive pas. Résultat, les caniveaux forment une sorte d'assiette bonne pour contenir l'eau au lieu de la laisser passer. D'où l'inondation à chaque pluie sur cette rançon.
Actualité internationale.
La vice-présidente américaine est arrivée hier au Ghana, première étape de sa visite d'une semaine en Afrique. Le séjour de Kamala Harris s'inscrit dans le cadre de la volonté des États-Unis de contrer la percée chinoise sur le continent. Le Ghana, par exemple, a conclu un accord de 2 milliards de dollars avec une entreprise chinoise portant sur divers projets. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.